Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la curiosité sur RTL, une heure pour se cultiver dans la bonne humeur avec des invités passionnés et donc passionnants. Ça va, Sidonie?
Et des animateurs géniaux. Qu'est-ce qui nous arrive? Vous allez bien,
Vous
Thomas?
Dites ça pour moi.
Bah, évidemment, je suis tellement humble. Salut à tous, soyez les bienvenus. C'est reparti pour une semaine de curiosité et de découverte. Au programme, tout à l'heure, vers 14h30, on fera une dégustation d'huile d'olive. Comment reconnaître une bonne huile? Comment la choisir? La cuisiner aussi? Et puis quand est née la toute première goutte de ce jus de fruits 100% naturel? Une sommelière en huile d'olive répondra à toutes nos questions de gourmand.
Allez tout de suite, Donald avant Trump sur RTL.
On est bien entre curieux.
I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Donald J. Trump is the president of the United States elect.
Curieuse, curieux.
I, Donald John Trump, president of the United States.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Qui était Donald Trump avant de devenir cet improbable président des États-Unis? C'est la question du jour dans la curiosité. Et pour y répondre, on est en ligne avec Philippe Corbet, le correspondant de RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Thomas, bonjour Sidonie.
Bonjour Philippe, bienvenue.
Alors Donald Trump est au pouvoir depuis bientôt un an. On se replonge dans l'ambiance. On vient d'entendre un court extrait de sa cérémonie d'investiture, 20 janvier 2017. On va se projeter le soir. Avec quelle chanson a-t-il ouvert le bal de son investiture?
Avec une chanson française, ou plutôt de l'adaptation américaine célèbre d'une grande chanson française, My Way.
Et alors ça dit quoi, My Way?
Alors My Way, c'est évidemment l'adaptation par Paul Anka, pour Frank Sinatra, de comme d'habitude de Claude François, mais c'est pas du tout la même histoire. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, à travers les difficultés de la vie, construit son propre chemin et qui dit notamment « L'histoire montre que j'ai encaissé les coups et je l'ai fait à ma façon ». Et c'est au fond une chanson qui résume bien le parcours de Donald Trump.
« I did it my way ».
Ouais, à ma façon.
On va raconter la jeunesse de Trump et voir s'il a vraiment encaissé les coups. Il naît en juin 1946. C'est quoi son origine, son milieu familial?
Alors, il grandit dans le Queens. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on pense à Frank Sinatra, parce que si vous ne connaissez pas New York, il faut rappeler que Manhattan, c'est une île. Donc, les grands buildings, les grandes tours sont sur une île. Lui, comme Frank Sinatra, qui était né à Hoboken, dans le New Jersey, grandit dans le Queens, c'est-à-dire de l'autre côté. Il n'est pas sur l'île, il n'est pas sur Manhattan. Il grandit en voyant au loin Manhattan et les tours et les lumières de la ville, sans y être tout à fait. Donc, le Queens, c'est un quartier de New York qui se trouve de l'autre côté de la rivière, où il y a beaucoup de populations qui viennent de beaucoup d'origines. Il y a les Portoricains entre eux, les Mexicains entre eux. Voilà, il grandit là.
C'est un milieu familial.
Alors oui, c'est pas une famille pauvre, mais ce n'est pas une famille richissime comme elle va l'être plus tard. C'est-à-dire que son père est un promoteur immobilier. Ce ne sont pas des immeubles de luxe, mais notamment il construit des bâtiments résidentiels, des immeubles d'appartements qui ne sont pas des HLM, mais qui ne sont pas non plus des palais. Donc il construit il fait son petit bonhomme de chemin.
Et comment il éduque ses enfants, le père de Donald Trump, et notamment Donald? Est-ce qu'il est sévère avec lui?
Ah oui, alors son père, qui s'appelle Fred, est assez sévère. Il essaye notamment de montrer à ses enfants qu'il faut travailler, qu'il faut avoir une forme de courage et d'énergie pour réussir dans la vie. Donald Trump n'est pas l'aîné. Il a deux sœurs plus âgées et un frère plus âgé, qui est d'ailleurs l'héritier du père. Il porte le même nom et il est censé reprendre le chemin. Et donc Donald Trump est le petit garçon. Et il regarde ses grands frères et sœurs et ses parents avec beaucoup d'admiration, mais il n'est pas le préféré. Mais il va être celui qui, au fond, va suivre le chemin de son père et qui va le plus suivre son exemple.
Philippe Corbet, adolescent, Donald Trump va s'offrir quelques virées secrètes à Manhattan et se faire d'ailleurs pincer par son papa. Comment il réagit, son père?
Alors en fait, Donald Trump n'était pas un cancre, mais c'était pas non plus le meilleur élève de la classe. Il avait quelques petits problèmes de comportement. Il n'avait pas de discipline, pour tout dire. Il faisait à peu près ce qu'il avait envie de faire, ce qui est peut-être aussi ce qu'il a continué à faire dans sa vie. Et donc notamment, parfois, il séchait l'école, il séchait le lycée, le collège, et donc quittait le Queens pour venir en métro jusqu'à Manhattan et traîner dans cette ville qui le faisait, enfin dans cette partie de la ville qui le faisait rêver. Et donc il venait ici, ce qui n'a pas du tout plu à son père, qui aimait quand même les origines allemandes de sa famille, lui imposait une forme de discipline que son fils ne respectait pas. Et donc, il l'a puni en l'envoyant dans une pension, une académie militaire, quand il avait 13 ans ou 14 ans. Donc, c'était pas une pension particulièrement sévère. Beaucoup de gens qui nous écoutent ont été en pension et savent ce que c'est. Mais malgré tout, il a envoyé son fils en pension pour essayer de lui apprendre la discipline pour qu'il se tienne à carreau. Et Donald Trump a eu beaucoup de mal, notamment la première année. Il a notamment été battu parfois par les surveillants du lycée, du collège, de la pension pour qu'il se tienne à sa discipline. Il refusait par exemple de faire son lit net tous les matins, de cirer ses chaussures. Il avait eu l'habitude de grandir dans une famille privilégiée, donc il ne comprenait pas pourquoi il devait faire ça. Mais au fond, ça s'est bien passé et je crois qu'il a été assez heureux dans ce lycée militaire.
Vous publiez, Philippe, Trumpitude et Turpitude chez Grasset, journal de cette première année de pouvoir et des nombreux tweets du président américain. Est-ce qu'il fait parfois référence à cette jeunesse ? Est-ce qu'il fantasme une éducation à la dure, Donald Trump ?
Alors, c'est vrai qu'il dit souvent, et c'était particulièrement présent pendant la campagne, quand on lui disait, mais vous n'avez aucune expérience de gouvernement, aucune expérience de militaire. Il disait, mais j'aime beaucoup l'armée, je connais bien l'armée. Il laissait au fond entendre qu'il avait été lui-même, sinon dans l'armée, du moins il avait une éducation militaire. Non, il était dans un lycée militaire, mais il n'était pas lui-même militaire. Mais il dit qu'il aime ça, la discipline, etc. Et que c'est là qu'il a appris son énergie, que c'est cette énergie qui a fait son succès. Dans les faits, quand on regarde bien, il n'a pas fait, alors qu'il est né en 1946, il n'a pas été au Vietnam. Et c'est vrai que c'est une différence avec beaucoup de gens de cette génération-là. On peut même dire qu'il a tout fait pour échapper au Vietnam. D'abord, il était étudiant, donc il était dispensé. Puis ensuite, quand il aurait dû y aller, il a trouvé un médecin pour lui faire un certificat médical pour une excroissance osseuse au pied. Il ne se souvient plus aujourd'hui de quel pied il s'agit, mais ça lui a suffi pour ne pas aller au Vietnam. Ouais. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, il y a encore des gens, des hommes politiques républicains qui, eux, ont été au Vietnam, qui disent Donald Trump faisait partie de ces privilégiés, au fond, qui ont réussi à échapper à cette boucherie. Et ça, c'est un aspect assez important quand même de sa carrière, parce qu'il a ensuite raconté pendant très longtemps que « Oh, j'ai pas été au Vietnam, mais mon Vietnam à moi, comme il disait, c'était d'avoir survécu aux maladies sexuellement transmissibles. Et parfois, les femmes, c'est pire que les mines antipersonnelles. » Il a vraiment dit ça dans les années 80-90. Donc, il avait un rapport très étrange.
Oui, il est fin depuis longtemps, en fait.
Oui, il a dit ça dans des émissions de radio à plusieurs reprises. Il disait qu'au fond, il avait vécu un Vietnam personnel en survivant aux difficultés de la vie à Manhattan.
Alors, pour bien comprendre Trump, il faut aussi raconter son frère aîné, une histoire que le président américain n'aime pas voir ressortir des tiroirs. Pourquoi ? Réponse dans un instant sur RTL.
Bienvenue sur RTL. Les curieux. 20 janvier 2017, jour d'investiture à Washington. C'est ce jour que beaucoup pensaient ne jamais vivre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Donald J. Trump, le 45e président des États-Unis prête serment.
Unbelievable!
Si votre défaut, c'est la curiosité.
Ce jour à partir duquel les États-Unis changeraient à tout jamais.
We're gonna make America great again!
Alors vous êtes bien sur RTL.
Donald Trump est au pouvoir depuis un an, l'occasion pour nous de dévoiler ses secrets de jeunesse avec Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Philippe Corbet, Donald Trump, vous nous l'avez dit, il a 4 frères et sœurs, et celui dont l'histoire est essentielle pour comprendre la psychologie du président américain, c'est l'aîné. Comment s'appelle-t-il et sur quoi repose sa relation avec le jeune Donald ?
Alors il s'appelle Frédéric, comme son père, comme le grand-père qui avait émigré d'Allemagne, qui avait commencé à faire des affaires aux États-Unis. Et au fond, ce Fred, donc le grand frère de Donald Trump, devait être l'héritier de la lignée familiale et suivre l'éducation un peu à la dure dont on parlait tout à l'heure du père, qui répétait tout le temps « tu es un tueur, tu es un roi ». Sauf que ce frère, comme le dit Donald Trump lui-même, plus beau, plus intelligent, plus, avec une personnalité plus remarquable, plus brillant au fond que lui, ce frère ne va jamais se sentir à l'aise dans ce rôle d'héritier que a signé le père. Et donc, il va regarder Donald Trump, il va regarder son grand frère descendre dans une forme de déchéance, dans l'alcool, dans la drogue, ne pas réussir à vraiment s'accrocher à un travail. Il travaille dans le business familial, puis il devient pilote, puis il revient dans le business familial et finit finalement à vivre dans la maison où il a grandi parce qu'il n'avait rien d'autre. C'est un frère qui finalement il s'est construit comme en disant je vais essayer d'être meilleur que ce frère qui avait tout en main et qui a tout raté.
Ce frère, Philippe Corbet, il a été banni de la famille ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il décevait le père, donc le père qui était assez dur, essayait de le faire travailler, puis ça se passait pas bien, il y avait des tensions, donc il a pas été banni, enfin en tout cas, à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en 1981, il vivait dans la maison familiale avec les parents. Ça a été très compliqué parce qu'au fond, même après sa mort, il y a eu des problèmes lorsque le père de Donald Trump est mort en 2000, il y a eu un problème d'héritage, il y a eu des tensions. Donald Trump a coupé les vivres au fils de son frère, à son neveu, et alors que son neveu avait des difficultés familiales, avait un enfant malade, Donald Trump, pour une histoire d'héritage, a coupé les vivres. C'est vraiment compliqué, mais aujourd'hui, il en parle de ce frère avec beaucoup d'émotion lorsqu'il parle des addictions, notamment à la drogue et à l'alcool. C'est pour ça qu'il n'a jamais bu d'alcool, qu'il ne s'est jamais drogué.
C'est ce que son frère lui conseillait, ouais. C'est-à-dire lui disait ne bois pas, ne fume pas, c'est ça ?
C'est même pas tellement qu'il lui a conseillé, c'est que Donald Trump a regardé son frère qui avait 8 ans de plus que lui et il s'est dit je ne veux pas, alors qu'il avait tous les atouts en main, je ne veux pas moi sombrer dans cette déchéance-là et je vais essayer de me tenir à une forme de discipline personnelle. Donc c'est vrai qu'il ne boit pas et qu'il ne s'est pas drogué, alors même qu'il a beaucoup fait la fête, qu'il a eu beaucoup de femmes, qu'il aurait pu tomber dans les excès de l'argent, mais il est resté sur une forme de discipline personnelle comme ça, parce que finalement, il dit, mon frère avait tout pour être un grand et il a tout gâché à cause de ça.
Donald Trump qui se présente aussi comme un grand businessman, mais d'où vient vraiment sa fortune ? On vous dévoile la source de ses milliards sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
Tendance, comportement, expérience, on est fait pour s'entendre. Un magazine qui vous ressemble du lundi au vendredi de 15h à 16h en direct sur RTL.
C'était il y a un an, le 20 janvier 2017, Donald Trump était investi comme le 45e président des États-Unis d'Amérique. On vous raconte son histoire avant cette victoire surprise avec Philippe Corbet, correspondant de RTL, qui est donc avec nous en direct de New York. Philippe, on va découvrir la richesse de Trump. Bon, un chiffre déjà, combien pèse-t-il en milliards de dollars aujourd'hui ?
Alors lui dit 10, certains doutent même qu'il soit milliardaire. Disons qu'on va se fier au chiffre de Forbes qui évalue chaque année les fortunes américaines et qui dit que cette année, donc en 2017, 3,1 milliards de dollars, c'était un peu plus avant qu'il se lance dans la campagne électorale. Voilà, environ 3 milliards pour Donald Trump et sa famille, puisque toute sa famille est investie dans ce business. C'est une vraie réussite, mais ce n'est pas non plus un empire type Apple ou Facebook.
Il se présente souvent comme le roi des bâtisseurs. Est-ce qu'il a vraiment construit tous ces buildings qui portent son nom à travers le monde ?
Alors c'est vrai que c'est comme ça qu'il est rentré dans son qu'il est devenu vraiment riche, puisque dans les années 70-80, New York était un petit peu comme le New York de Taxi Driver de Martin Scorsese, c'est-à-dire que c'était un New York assez sombre, il y avait beaucoup de gens qui partaient, il y avait beaucoup de violence dans les rues, et lui a su d'une certaine manière profiter ou en tout cas créer des opportunités dans cette situation-là, puisqu'il a commencé à alors qu'il y avait beaucoup de corruption et beaucoup de c'était très difficile finalement de faire avancer les choses à New York, et lui avec son énergie a réussi à construire d'abord un hôtel à côté de la gare de Grand Central, puis des tours ici et là. Il a réussi vraiment à être plus malin que les autres et à se servir de ses opportunités. Donc il a construit la Trump Tower, il a construit à New York, il y a une grande tour aussi à côté de Central Park, il y en a au sud à côté du World Trade Center. Et il a construit comme ça des buildings jusqu'au moment où il s'est dit « je vais devenir une sorte de nabab du jeu » à Atlantic City, qui est le Las Vegas de la côte Est, donc entre New York et Washington. Et là, ça s'est très mal passé pour lui parce qu'il a investi beaucoup d'argent et il a beaucoup perdu puisque ça n'a pas marché. Et donc, il était ruiné virtuellement dans les années 90. Un jour, avec sa deuxième femme, il croise un SDF et il dit, tu sais, chérie, enfin, c'est comme ça qu'il le raconte. Il dit, tu sais, chérie, ce SDF dans la rue, eh bien, il est plus riche que moi, parce que c'est vrai qu'il avait des centaines de millions de dollars de dettes. il vivait tout, malgré tout Trump Tower, et il a réussi à se refaire à la fin des années 90, début des années 2000, de façon très astucieuse, en disant je vais continuer à faire des projets immobiliers, mais je ne vais plus les construire moi-même, je vais associer mon nom finalement à des projets qui existent ou des projets qui ont du mal à se concrétiser, et je vais vendre ma marque. Et au fond, c'est ça qu'il vendait, et c'est comme ça qu'il a refait sa fortune, c'est en vendant sa marque sur des immeubles. Donc il y en a à Chicago, un grand immeuble au centre de Chicago, à Las Vegas.
Qu'est-ce qu'il fait comme autre produit aussi, Donald Trump ?
Ah bah, donc à partir des années 2000, il vend tout. C'est-à-dire qu'il y a des madelas Donald Trump, il y a des peignoirs Donald Trump, il y a des cravates Donald Trump, il y a tout Donald Trump, il y a des steaks Donald Trump.
Ça marche toujours ça aujourd'hui ou pas ?
Alors, il y en a toujours en vente. Si vous allez à Trump Tower, vous pouvez acheter des cravates Donald Trump. Et c'est vrai qu'ils ont... D'abord, tous les produits n'ont pas fonctionné au fil des années. Les steaks Donald Trump n'ont jamais marché parce qu'ils étaient envoyés par correspondance quand même.
Il devrait se lancer dans les cheveux de Donald Trump, c'est une bonne idée, non ?
Dans les perruques.
Dans les perruques.
Sujet sensible, ce n'est pas une perruque, ce n'est pas une perruque. Non, mais en fait, non, c'était très astucieux en fait, parce que finalement, il vendait son nom pour être associé à d'autres produits. Il touchait des royalties. C'est comme ça qu'il a réussi à se refaire une fortune financière, et c'est très très astucieux. Sa fille est là-dessus aussi, mais c'est tout le problème, toute l'ambiguïté de sa campagne électorale et de son élection, c'est que maintenant, est-ce que la marque Trump n'a pas perdu de la valeur, parce qu'un jour il va quitter la Maison Blanche en 2021 ou 2025, et est-ce que la marque Trump pourra encore de la valeur financière? En tout cas, par exemple, l'hôtel qui se trouve au sud de Manhattan, qui s'appelait Trump Soho, eh bien, ils vont enlever le nom Trump parce qu'il n'arrivait plus à remplir les chambres.
Ah oui, donc il y a aussi des gens qui ne veulent plus porter Absolument. Du Trump ou loger dans une tour oui. Trump. Dans votre livre « Trumpitude et turpitude » publié chez Grasset, Philippe Corbet, il y a forcément des tweets, puisque vous analysez ces mots, la force de ces mots, il y a forcément des tweets sur sa passion du golf. C'est aussi une partie de sa fortune, les golfs.
Oui, parce qu'il adore ça, comme beaucoup d'Américains qui ont réussi. Il aime le golf. Et il a commencé dans les années 80, puis beaucoup dans les années 2000 ensuite, à réorienter son business vers justement le loisir. Et donc, il a ouvert ou créé ou restauré un nombre de golf. Il y en a un, par exemple, ici, pas très loin de New York, dans New Jersey. Il y en a en Virginie, il en a à Los Angeles. Il en a deux au sud de la Floride. Et ce sont des clubs, finalement, où des gens fortunés, mais aussi des gens qui, finalement, se sont élevés socialement peuvent venir dépenser de l'argent et être dans un milieu un petit peu chic, privilégié. Et c'est comme ça qu'il fait de l'argent, puisque notamment les droits d'admission ont augmenté depuis qu'il est en politique.
Trump, c'est aussi un homme à femme, une réputation de Don Juan qui commence au lycée militaire, vous verrez.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
La saga Trump sur RTL avec Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Philippe, on va pas revenir sur les trois mariages de Donald Trump et ses cinq enfants, mais sa réputation quand même de Don Juan, elle date de sa jeunesse et notamment du lycée militaire de New York dont on parlait tout à l'heure. Pour quelle raison, Philippe ?
Il avait un surnom là-bas, c'était Ladies Man, homme à femme. Alors, sans remettre en cause ses talents à l'époque, il y avait aussi une part de fabrication dans ce surnom, parce que tous les week-ends, quand ses parents venaient le voir à la pension, ils arrivaient avec une jeune fille différente, et donc il se baladait avec une jeune fille différente, qui permettait de montrer il pouvait ainsi se montrer avec une jeune fille différente par semaine. Et finalement, il a continué de cette stratégie-là toute sa vie, puisque dans les années 80-90, entre ces deux mariages, en 92 notamment, il appelait les tabloïds en faisant une fausse voix, en disant « Je suis un assistant de Donald Trump, et Donald Trump est sorti la semaine dernière avec Madonna, il sort le week-end prochain avec Carla Bruni. » Tout ça, c'était faux, mais il lançait des rumeurs comme ça, en prétendant avoir été avec telle ou telle grande célébrité, Emma Thompson aussi. Et voilà, ça permettait de faire parler de lui, ça permettait de lui attribuer cette image de puissance virile à laquelle il est très attaché.
Et c'est beaucoup plus glamour que les actrices porno dont les histoires ressortent en ce moment. Là, il y a deux témoignages, je crois. Ouais. Est-ce que ça peut... jusqu'où ça peut aller ? Quelle suite judiciaire on peut imaginer là, d'ici à la fin de son premier mandat ?
Des suites judiciaires là-dessus, je pense qu'il n'y en aura pas, parce qu'il dément, par exemple, cette histoire d'actrice porno. Il y avait une autre histoire similaire où aussi une femme avait été payée juste avant l'élection pour ne pas raconter son aventure extra-conjugale. Et vous savez, quand un président, un homme comme Donald Trump, un candidat, est élu président un mois après la diffusion d'une vidéo où il dit, je le cite, où il se vantait d'empoigner les femmes par, excusez-moi de le dire comme ça, mais par la chatte, c'est comme ça qu'il le disait dans cette vidéo. Il a malgré tout été élu. Vous savez, je ne suis pas certain que ces rumeurs sur des actrices porno changent grand-chose, parce que les Américains l'ont élu en sachant exactement qui il était de ce point de vue-là, même si s'il y a des accusations de harcèlement sexuel, mais c'était avant l'élection.
Merci beaucoup Philippe.
Merci
Philippe. Bon courage, parce que Donald Trump est une machine à tweets qui ne s'arrête jamais.
Alors on conseille matin déjà.
On conseille la lecture de votre livre, il est passionnant, Trumpitude et Turpitude, un carnage américain. C'est publié chez Grasset. Et puis on vous retrouve à 18h50 avec Marc-Olivier Fogiel.
Absolument.
Puisque RTL Monde est consacré toute la semaine à cette première année de pouvoir de Trump. Merci Philippe.
À très bientôt.
Bon après-midi.
Vous écoutez RTL.